Bonjour Frédéric Huttmann au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Stéphane Varupen, bonjour.
Bonjour.
Alors on peut vous voir actuellement dans le Roi Lear à la Comédie Française, vient de se terminer ce spectacle Les Serges, dont on va parler beaucoup. Après vous allez reprendre le Tartuffe, mis en scène par Ivo Vanneur.
Ça y est, ça a redémarré.
Ah, ça redémarre,
ouais. C'est ma deuxième Varupen ce soir.
Alors là, c'est quelque chose pour nous de totalement incompréhensible. C'est-à-dire qu'au moment où vous donniez Les Serges, vous donniez en même temps Le Roi Lear.
C'est ça,
on
ça,
se
ouais.
dit, mais comment vous arrivez à passer dans des univers aussi différents
Bah, c'est un peu la gymnastique de la Comédie Française, de la maison, où on peut aller jusqu'à jouer trois spectacles par jour. et bon, on s'habitue. Alors, c'est vrai qu'on peut être très fatigué quand même à certaines périodes, mais on commence à être un peu habitué, oui.
Alors, ce qui me passionne dans votre parcours, notamment Stéphane Varupen, c'est que vous êtes à la fois comédien et musicien.
Oui.
Et alors, il semblerait que vous ayez hésité entre les deux, puisque au départ, vous êtes tromboniste, vous avez fait le CRR, même le CNSM.
Oui. Même mon premier instrument, c'est la guitare. Et puis après, oui, je suis passé au trombone pour aller. Moi, j'étais dans le Nord. On a cette tradition des harmonies dans le Nord. Donc, moi, c'est vrai que j'allais à l'harmonie avec mes frères et mes parents, qui étaient musiciens amateurs. Et donc, j'ai poussé ma formation à Lille, où j'ai eu mes prix à Lille, et à Boulogne-Billancourt. Et puis, j'ai réussi justement la même année l'entrée au CNSM et au CNSAD, du coup l'art dramatique. Et il a fallu faire un choix, parce que les deux emplois du temps n'étaient pas compatibles. Et donc, j'ai choisi le théâtre. Et puis, ce qui ne m'a pas empêché de continuer à faire énormément de musique, parce qu'on me demandait... On me demandait beaucoup de sortir ma guitare ou mon trombone, déjà au conservatoire.
Bah dans Le Roi Lear, on vous voit jouer de la guitare.
Ouais, ouais.
Dans le spectacle Les Serges, vous jouez
voilà.
Également du trombone.
Dans Guermantes aussi, je joue de la guitare, je chante.
Ouais. Le trombone, c'est quand même un instrument extrêmement physique. Enfin, quand j'ai discuté avec des trombonistes qui eux, sont restés trombonistes à part entière, ils me disent que c'est vraiment... Il y a une nécessité de s'entretenir physiquement,
oui.
Sportivement.
Ben, c'est vrai que vite, quand on arrête, moi il m'arrive des fois, quand j'ai pas de spectacle où je joue, d'arrêter pendant 2-3 mois. Et c'est vrai que bon, la musculature, on sent que je peux plus jouer aussi longtemps qu'avant. Quoi. C'est vrai que ça, c'est du sport. Après, c'est vrai que comme j'ai poussé ma formation assez loin, je retrouve assez vite le son. Mais c'est vrai que j'ai plus la gueule, comme on dit.
Quand on regarde votre itinéraire, Stéphane Varupen, alors je suis un peu retourné en arrière. J'ai vu que même en 2014, vous aviez donné un spectacle avec l'Orchestre de Paris sur Tchaïkovski pour des enfants. Et vous avez beaucoup travaillé avec l'Orchestre de Paris.
Oui.
Aussi. Enfin, c'est incroyable comment vous arrivez à conjuguer les deux, musique et théâtre. Et je vois, par exemple, au milieu de tout ça, l'histoire du soldat de Stravinsky.
C'est vrai qu'on me demande pas mal en tant que récitant. Et puis avec l'Orchestre de Paris, c'était intéressant parce que c'était des concerts pédagogiques où j'essayais d'expliquer, de vulgariser un peu les grandes œuvres comme Tchaïkovski, Brahms. C'était assez intéressant pour un public scolaire souvent, public jeune. Et ça m'intéresse beaucoup, même là quand on invite des musiciens professionnels dans les spectacles, comme là sur Le Roi Lear, il y a deux trompettistes. Ça m'intéresse toujours de pouvoir dialoguer avec les musiciens. En général, oui. Ça apporte énormément.
C'est très spectaculaire ce qu'ils font sur Le Roi Lear. On les voit des deux côtés.
Ils sont incroyables. Ouais.
Et c'est incroyable. Alors là, on va revenir après sur votre cinéma. On va parler de ce spectacle Les Serges qui vient de s'achever pour la deuxième fois, puisque c'était la première fois en 2019.
Ouais, ouais.
Ce qu'il y a de passionnant, alors l'équipe masculine, c'est la même. On va
c'est la même, ouais.
Tout le monde. Vous, bien sûr, chant, guitare, trombone, Benjamin Laverne, chant, batterie, basse, Sébastien Poudroux, qui est visiblement un de vos grands complices
de
la comédie française.
Ouais.
Chant, guitare, basse, clarinette, clavier. Noam Morgenstern, chant, piano, clavier. Johan Gasorowski, chant, batterie, percussion, piano. Alors, vous étiez tous déjà dans la première mouture de ce spectacle,
voilà, ouais.
Les Serges. Et puis là, vous avez été rejoint par Marie Oppert, qui a pris entre guillemets la place de Rebecca Marder.
Bah, Rebecca est partie de la Comédie Française pour d'autres aventures. Notamment, elle tourne beaucoup en ce moment et il fallait qu'on la remplace. Et on a eu la chance que Marie soit engagée là récemment pour chanter bientôt dans l'opéra de Katsu d'ailleurs. Et elle a une solide formation. Elle vient de la comédie musicale, Marie.
Moi,
elle
je l'ai connue dans Les Parapluies de Cherbourg.
Voilà, ouais, elle a chanté les plus grands rôles, West Side Story, Peau d'âne. Et donc, c'était incroyable de pouvoir avoir quelqu'un qui puisse rentrer dans les pas de Rebecca assez rapidement.
Ça donne une toute autre couleur au spectacle. Parce que oui. Vous êtes cinq comédiens chanteurs. Mm. Elle, c'est une chanteuse comédienne. Ça donne une autre couleur à cet ensemble.
Bah oui, puis elle a pas du tout la même sensibilité. Elle dégage pas la même chose que Rebecca. Donc c'était bien, c'est différent. Oui, ça, puis ça nous permettait, du coup, pour une reprise, d'avoir... ouais, d'avoir quelque chose de nouveau qui nous restimule.
Enfin, on est toujours en lien avec la musique parce que Rebecca Marder, de mémoire, son père est un contrebassiste
oui,
de
bien
grand
sûr.
Talent qui a fait pas mal de musique de film.
Oui, oui,
une
oui.
filiation aussi. Mais ça a changé beaucoup pour vous le fait de travailler justement avec une autre femme qui incarne aussi Serge Gainsbourg, comme tout le monde incarne Serge Gainsbourg dans ce spectacle.
Vous voulez dire là avec
là,
Marie.
La reprise avec Marie
oui.
au père.
Non, bah en fait, elle je crois qu'elle a tellement l'habitude de travailler et la musique que ça a été assez rapide. Elle a amené tout de suite beaucoup de sérénité comme elle avait beaucoup de métiers et donc ça a été assez facile de reprendre ce spectacle tout compte fait.
Mais il y a un moment d'ailleurs où elle se lâche complètement, elle devient quasiment cantatrice.
Ah oui, oui,
et,
oui.
Et vous les, la regardez comme si bon, ça sortait des clous du spectacle. C'est assez drôle d'ailleurs.
Oui, parce que c'est vrai qu'on était assez impressionnés par ses possibilités vocales et notamment dans ses vibes-là, dans comme un boomerang. C'est vrai que c'est assez étonnant. Puis en plus, c'est un petit bout de femme quand même. Donc de voir ce qu'elle va chercher au fond d'elle-même, c'était assez impressionnant. Donc on était assez admiratifs de ça, oui.
Alors, ce spectacle Les Serges va être pérennisé. Alors, je ne sais pas s'il sera repris. Faut espérer, parce qu'à chaque fois, bien sûr, c'est...
Enfin, on nous a dit que c'était peut-être une possibilité. On va voir. Non,
j'ai énervé beaucoup de gens en y allant, parce que des gens qui n'arrivaient pas à trouver de place. Stéphane Varupen, donc il faut vraiment que ce soit repris. Parce que c'est... Alors, il y avait eu un spectacle avant auquel vous aviez participé, que j'avais trouvé également fabuleux. C'est comme une pierre qui...
Oui, oui, oui.
Une séance d'enregistrement de Bob Dylan. Et ça, c'était un travail extraordinaire aussi.
Bah oui, c'était Marie Raymond et Sébastien de Poudrou, du coup, qui avaient mis en scène. Et puis moi, déjà, à l'intérieur, j'avais une part de création parce que c'est vrai qu'il fallait déjà scoltiner les parties de Mike Bloomfield et puis de tous ces grands noms du rock. Et c'était intéressant, c'était un travail un peu différent parce que là il y avait vraiment une histoire, c'était vraiment la séance d'enregistrement, donc il y avait moins de musique, c'était que la même chanson, enfin qui faisait d'une dizaine de manières différentes. Mais
alors, ce qui est fascinant dans Les Serges, d'abord, c'est là vous avez conçu le spectacle avec le Sébastien,
avec Sébastien Poudrou. Ouais.
Et donc vous avez élaboré un mélange de textes, d'interviews. C'est formidable parce que vous avez évité pas mal de clichés dont on avait peur concernant Serge Gainsbourg. Et vous êtes cantonné beaucoup à son côté artiste. Bon, il y a le côté provocateur, mais c'est quand même un musicien extraordinaire, un parolier extraordinaire. Qu'est-ce qui fait que ça reste Gainsbourg aujourd'hui, puisque vous êtes musicien aussi.
Ouais.
Donc vous avez une vision sur la musique qui fait que les chansons de Gainsbourg sont éternelles, en fait. Qu'est-ce qui fait que leur écriture entraîne ça?
Bah déjà, ça a été un des seuls qui a vraiment allié écriture et musique. Quoi. Ça ne fait vraiment qu'un. Et je pense que c'est pour ça que ça dure, parce qu'il y a quelque chose qui est tellement imbriqué qu'on ne se dit pas « Oh, l'accompagnement est un peu suranné, un peu de l'époque. » Il avait déjà tout de suite pensé à cette imbrication. Et je pense qu'il avait une telle ouverture, une telle culture... Enfin, je pense, à mon avis, il était un peu visionnaire. Il pensait déjà à l'avenir. C'est aussi quand même, on peut dire le précurseur, peut-être le créateur du sample, quoi, d'avoir cette idée de prendre des choses de la musique classique et puis d'en faire une chanson de variété, ce que font maintenant beaucoup les rappeurs et tout ça. Donc, je pense qu'il était précurseur à cet endroit-là, et c'est pour ça que.
Enfin, les musiques aussi sont formidables. Enfin,
puis les musiques, incroyable. Bah oui, oui.
Et alors, il y a une sorte de fil rouge dans le spectacle. Je me suis dit après coup, c'est la chanson Laetitia, dans là. Et vous êtes tous sociétaires de la Comédie Française, donc il y a un rapport au texte. C'est quoi? C'était un choix inconscient ou vous en êtes aperçu tout de suite?
Oui, c'est venu comme ça. Je pense qu'on s'est dit, tiens, ce serait marrant d'en faire un jingle vu que c'est assez répétitif. Oui, c'est... je ne sais plus comment c'est venu, mais bon, il y a des choses comme ça qui nous sont apparues au fur et à mesure qu'on répétait les chansons. On n'y avait peut-être pas pensé forcément au tout début, puis en fait, à force de répéter, on s'est dit, tiens, ce serait pas mal de la saucissonner comme une sorte de jingle. Ouais.
Et comment s'est passé la construction de ce spectacle avec Sébastien Poudrou? C'est-à-dire que ça a dû être très long, parce que on a l'impression d'un travail de construction qui est très spectaculaire à voir pour nous, spectateurs.
Ben, c'est vrai qu'on a vu énormément de choses. Ben, c'est pléthorique, le nombre d'interviews qu'il a donné, c'est vraiment énorme. Et puis dans le choix des chansons aussi, il a écrit tellement, et puis pour tellement de gens. Alors on a voulu prendre quand même une majorité de chansons connues, parce que c'est vrai qu'il y a le plaisir quand même pour les gens de retrouver...
S'il n'y a pas la javanaise et le poinçonneur des lilas,
on sait quand même que les gens ont envie aussi de réécouter ces chansons mythiques, puis elles ne sont pas mythiques pour rien, c'est que quelque part aussi il y a quelque chose de... Et puis ça nous permettait aussi de les décaler justement, pour certaines personnes, enlever l'image qu'on a de Gainsbourg derrière pour pouvoir juste écouter le texte. Et puis, mais oui, c'était énorme. Et puis après, on a travaillé pendant un an, ce qui arrive jamais ici. Les comédiens musiciens là, ont eu le courage et nous ont fait le plaisir de venir le matin de temps en temps, en plus des répétitions d'autres spectacles, pour s'enfermer dans la petite salle de répétition, le petit studio, et puis essayer de trouver un son, essayer de trouver un groupe. Avec nos arrangeurs, Vincent Leterme, Martin Leterme, Guillaume Bachelet.
Oui, je précise que les arrangements sont fabuleux.
Bien sûr, ouais. Et ça s'est fait comme ça, petit à petit, en fonction aussi des capacités de chacun, des sensibilités de chacun. Et puis, pour que ça puisse faire aussi, pas seulement... que ce soit pas seulement de la musique, mais que ça fasse théâtre aussi, que ce soit des arrangements qui puissent nous permettre aussi de jouer sur scène, de pouvoir interpréter.
Il y a d'ailleurs un passage d'une très grande virtuosité vers la fin, enfin tout est virtuose, mais où vous rebondissez, où chacun enchaîne, vous enchaînez tous des
oui, oui.
phrases,
ouais.
C'est très spectaculaire pour nous.
Ouais, essayer de créer une sorte de tourbillon aussi de toutes ces phrases, du paradoxe qu'il était aussi.
Et ça, c'est votre passage par la musique qui vous a entraîné à faire ça, parce que c'est presque une virtuosité musicale.
Oui, je pense que la dramaturgie du spectacle a été vraiment musicale. On a essayé vraiment que ce soit d'alterner, que ce soit pas uniforme, quoi. On l'a vraiment pensé en termes de rythme, justement, et ce spectacle.
Et ouais. vous avez pensé à un autre chanteur qui pourrait auquel vous pourriez rendre hommage de la même manière, ou Gainsbourg, c'est vraiment un cas très particulier.
Ouais.
C'est difficile de trouver quelqu'un d'autre pour faire un tel travail.
Oui, c'est difficile parce que souvent les autres figures sont assez comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, mais ce qui est bien avec Gainsbourg, c'est qu'il y a tellement de figures différentes. Et puis dans le spectacle, à un moment, on dit, lui-même dit, je tiens pas à ce qu'on m'attrape, et c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller à la recherche. Et je pense que c'est cette recherche de ces différentes figures, de ce paradoxe, qui fait que ça permet au spectacle d'être aussi mouvant et aussi fluide, alors qu'avec une figure beaucoup plus concrète ou comme Brassens.
Oui, d'ailleurs, vous aviez participé à un spectacle consacré à Brel Brassens.
Oui, Brel Brassens Ferré. Oui. Bah justement, là, ce qui était bien, c'est qu'il y avait la parole de trois ouais. monstres comme ça.
Je crois que c'est Anne Kessler qui avait
C'est Anne Kessler. Ouais. Ah oui, c'était formidable.
J'avais... Ça va, on ne peut pas vous plaindre, Stéphane Varupen.
Non.
Les mises en scène. Là, vous avez Ostermayer, Ivo Vanov, Christophe Honoré.
Oui.
Et puis vous... Et donc effectivement, donc vous avez réfléchi à une autre. C'est Eric Ruff qui vous avait suggéré Gainsbourg.
Oui. C'était un peu, on va dire, un peu une commande, quoi. Et du coup, avec Sébastien, on connaissait pas forcément très bien Gainsbourg, ou justement l'image qu'on nous en donne souvent à la télé de ses coups d'éclat.
Billet de 500 brûlés.
Voilà, ouais.
Là, vous l'esquissez, justement, c'est pas lourd du tout dans le spectacle.
Bah oui, parce que comme on le connaît, on voulait juste en faire un clin d'œil. On l'oublie pas, ces petites provoques. Mais bon, on veut pas en faire tout un fromage comme on nous l'a rabâché beaucoup à la télé. Et on voulait revenir aux sources, quoi. Et aussi, pourquoi cet artiste en est venu à ça, à cette ivresse, à cette provoque. Et c'est vrai qu'on a essayé de retrouver les origines.
Quand c'est une famille juive d'origine russe.
Voilà, ouais, ouais.
Née en 1928.
Qui a connu l'occupation. Et puis après aussi, lui, tout ce mal-être, il était très mal à l'aise. Il s'en prenait plein la gueule sur les premières tournées avec Brel, avec Barbara. Il était vraiment en souffrance. Il était parfois à la fin des concerts en pleurs. Il se demandait mais pourquoi il se prenait des choses vraiment très dures. Il y avait des spectateurs avec toi et ta sale gueule. Enfin, c'était très compliqué. Et donc, je pense qu'il y a de ça. Il vient de ça. Il y a peut-être une petite rancœur à l'intérieur de lui qui fait que il s'est mis à se protéger.
D'ailleurs, en plus, il y a ce rapport à l'argent, puisqu'à un moment, il y a une question qui lui est posée. Enfin, vous reprenez une interview, on parle de Annie M. les sucettes, ou je ne sais plus quelle grande chanson à succès, puis on lui demande ce que ça représente pour lui.
Oui, poupée de cire, poupée de son.
Voilà, excusez-moi, et il dit
45 millions.
Oui, il parle d'argent. Et en même temps, on sent que pour lui, l'idéal, c'était la peinture, qu'il aurait voulu être un grand peintre.
Ben oui. Et je pense qu'il a. Il se trouvait peut-être pas au niveau de grands peintres qu'il admirait, comme à l'époque où il découvrait notamment Francis Bacon ou tout ça. Je pense qu'il a eu un complexe d'infériorité, il a tout brûlé. Et puis il s'est mis à faire de la chanson en se disant que c'était un art mineur, peut-être pour se protéger aussi. Et puis il se sentait peut-être un peu au-dessus de son sujet sur la chanson, alors qu'à la peinture,
C'est étonnant d'ailleurs, ces artistes qui ont une immense reconnaissance, une immense notoriété. Et je pense à certains musiciens qui sont connus pour la musique de film, comme Nino Rota ou Morricone, ou et qui voudraient être connus pour les œuvres qu'ils ont composées ailleurs que le cinéma. Et Gainsbourg, ça fait penser à ça.
Oui, une
notoriété considérable, et en fait, ils voudraient être connus pour autre chose.
Vous avez raison.
Je ne sais pas, je lançais cette piste. Stéphane Varupen, pour revenir à vous, parce que encore une fois, votre itinéraire, moi je le trouve estomacant, à la fois la guitare, le trombone, vous êtes comédien à la Comédie Française, en plus c'est quand même une affiche incroyable. Vous, en tant que musicien, vous rêviez de jouer dans la troisième de Mahler, ou qu'il y a des œuvres iconiques comme ça pour le trombone
Oui. C'est vrai qu'à l'époque, en plus, moi, quand j'étais au conservatoire, et puis on passait les concours pour rentrer dans les supérieurs. On nous fait jouer les traits d'orchestre, souvent pour rentrer dans les orchestres. C'est les trucs mythiques, le boléro de Ravel, la troisième de Mahler, et puis il y a plein de choses comme ça.
De Richard Strauss
je pense.
Et ça, vous avez joué en orchestre pendant que vous étiez encore étudiant
Dans les orchestres de conservatoire, moi j'ai beaucoup fait de brass band aussi. La musique de brass band, j'aimais énormément. Il y avait le brass band Nord-Pas-de-Calais, musique de cuivre à l'anglaise. Des symphoniques dans les conservatoires. Même en rentrant ici, j'ai pu un peu jouer dans la fosse à l'Opéra de Paris, parce que moi j'ai un frère qui est trombone basse à l'Opéra de Paris. Et j'ai pu jouer pour notamment la petite renarde rusée, Diana Tchèk, je me souviens.
Sublime musique.
Ouais.
Alors là, rythmiquement, c'est pas facile.
Non. Et c'est là où, en jouant dans la fosse, à côté des vrais pros, là, où je me suis dit, heureusement que j'ai pas choisi ça, c'est un tel stress. Aussi des fois de comprendre la battue de certains chefs d'orchestre qui sont pas. C'est vraiment une habitude. Je me suis dit, voilà, je suis très content de pouvoir en faire à l'intérieur de spectacle, derrière, avec la protection d'un personnage.
Et alors, il y a quelque chose d'assez fascinant aussi, c'est que la temporalité, quand vous êtes comédien, quand vous êtes musicien, vous avez une partition, vous avez une intonation, vous avez un rythme, vous avez un tempo. Et quand vous êtes comédien, alors il y a une liberté différente, c'est-à-dire qu'il y a le metteur en scène qui vous impose ou vous propose un tempo, mais c'est quand même pas les mêmes contraintes. Vous avez à la fois plus de liberté, peut-être plus de... C'est peut-être plus difficile, justement, de ne pas obéir à quelque chose d'écrit aussi précisément.
Oui, c'est vrai que moi, je me souviens, quand je suis rentré au conservatoire d'art dramatique, je me suis retrouvé un peu démuni, parce que quand je faisais de la musique, j'allais faire mes gammes, j'avais des études, c'était plus précis, quoi. Et je me suis retrouvé au conservatoire avec des textes, je me suis dit, comment on bosse ça une fois qu'on le connaît par cœur, comment on fait? Donc, je me souviens de le rabâcher, mais un peu dans le vide, sans savoir. Et après, en arrivant ici, je me suis rendu compte que chaque texte, c'est une musicalité, un rythme différent. On n'interprète pas Tchekhov, Racine, Molière, Shakespeare. Tout ça, c'est Michel Bouquet, je crois, dans sa leçon de comédie, qui compare certains auteurs à des compositeurs, justement. Certains, je ne sais plus exactement, mais il disait, oui, il y avait des choses qui se rapprochaient plus de Mozart, et puis d'autres de Mahler, des choses plus terriennes. Et ça, je peux le ressentir. Je comprends des fois ce qu'il veut dire. Je peux le ressentir dans certaines œuvres.
Et alors, donc on compte plus les grands metteurs en scène avec lesquels vous avez travaillé, mais quand vous êtes retrouvé à la Comédie Française, justement, donc en 2007, à l'époque vous étiez pensionnaire, il y a toute une hiérarchie. À chaque fois, nous, on doit, spectateurs, réviser parce qu'on s'y perd, sociétaire, pensionnaire.
Ah oui, oui.
Et vous êtes le 528e, je crois.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et donc vous êtes retrouvé avec des metteurs en scène. Vous aviez fait du théâtre avant d'entrer à la Comédie Française.
Bah du coup, j'étais au conservatoire pendant 3 ans. Et puis avant, oui, j'en avais fait un petit peu à Lille, dans le Nord. Déjà à l'école, un petit peu. Mais c'est vrai qu'au départ, je faisais beaucoup plus de musique. Je me destinais plutôt vers une carrière de musicien. Et puis bon, bah, tout compte fait, ça... Enfin, je continue d'en faire tout autant, mais...
Vous avez l'opportunité de continuer le trombone, la guitare. En plus, vous faites des instruments, en plus de tout.
Oui, oui. Bah, là, pour l'instant, c'est bien, parce qu'on me demande assez régulièrement de faire dans les spectacles, donc ça me permet de maintenir un petit peu de temps en temps.
Mais, oui, vous avez fait pas mal de choses avec l'Orchestre de Paris, justement.
Oui, enfin là, c'était plutôt en tant que récitant, moins là, plus en tant que musicien, mais...
Alors... Ce spectacle, Les Serges, il y a un disque qui vient de paraître pour le label Alpha Classique avec une sélection, il n'y a pas l'intégralité du spectacle, mais il y a une grande partie du spectacle. Ça, c'est la version avec Rebecca Mardet.
Voilà.
Et je me disais, en mettant le disque, bon, comment ça va être parce que, et c'est, ça passe très très bien aussi, c'est un très beau disque.
Bah, disons que ce qui était compliqué, c'était qu'on a pris donc c'était à la base un DVD qu'on avait tourné pour France Télévisions, et donc l'enregistrement s'est fait sur 4 jours, musique et images compris, donc c'est quasiment un live parce qu'on n'a pas pu enregistrer piste par piste, et puis il fallait tout enregistrer d'un coup, il fallait faire aucune fausse note, donc c'est en ça où bon, c'est pas aussi précis et aussi parfait qu'un disque qui sera enregistré vraiment en studio, piste par piste, et où on prendrait vraiment le temps. Mais bon, il y a une énergie.
C'est très vivant.
Ouais, ouais, ouais.
Il y a ces mélanges d'interviews, notamment ça ouvre avec l'interview de Jacques Chancel.
Oui, oui, oui. Donc ils ont gardé quand même justement certains bouts de discours pour montrer que ça s'est fait dans ce cadre-là, quand même.
Alors vocalement, vous êtes tous très, très différents.
Oui.
Il y a une voix d'ailleurs, moi j'aime tout le monde, mais il y a une voix que j'adore en particulier, c'est Noam Morgenstern,
oui, oui,
qui a une voix tellement particulière, parfois un peu zézéante, enfin, parfois il en joue.
Ouais, bah dans Légionnaire, c'est super notamment.
Mais oui,
ouais.
C'est incroyable. Et comment vous avez choisi justement de répartir les chansons entre vous six
En fonction...
Black Trombone, ça, vous imposiez.
Oui, oui. On s'est dit que ce serait peut-être pas mal quand même que... Non, mais après, c'était en fonction des, comme on se connaît bien, des sensibilités de chacun. Avec Sébastien, on se serait dit, tiens, cette chanson serait vraiment bien que ce soit Noam qui s'en charge. Et puis des fois, il y a eu des surprises où les comédiens nous ont dit, moi, j'aimerais bien chanter ça. Par exemple, la version de vue de l'extérieur de Noam, c'est lui qui nous l'a proposé. Parce qu'au départ, on pensait pas la mettre, cette chanson. Et puis il nous a proposé cette version-là, quoi, complètement un peu inédite. Un peu romantique comme ça, et on s'est dit ok, banco, c'est super, on s'y attendait pas.
Alors là, vous êtes en train de reprendre Tartuffe, mise en scène par Ivo Vanhove, après il y aura Le Côté de Guermande. Comment ça se passe quand on reprend un spectacle qu'on a déjà donné où il n'y a pas forcément les mêmes comédiens? Ça aussi, pour nous, c'est très mystérieux. Vous vous retrouvez parfois face à des personnes qui n'ont pas incarné le rôle quand vous l'aviez précédemment joué.
Oui, c'est toujours. C'est toujours particulier. Bah là, en plus, dans Tartuffe, moi, je remplace Loïc. J'étais pas à la création, Loïc Corbery. Donc, déjà, ça, c'est pas facile. Il faut se mettre dans les.
Oui,
dans,
lui, dans il les... est actuellement dans la pièce de Büchner, La mort de Danton.
Oui, oui, oui.
Remarquez, ça veut pas dire qu'il peut pas tout jouer non plus.
Non, mais il est dans beaucoup de spectacles. Il vient de terminer La Cerisée. Il est de côté de Guermantes aussi. Et donc, oui, c'est pas facile. Et en même temps. Ça donne une certaine émulation, un petit renouveau, un petit peps pour reprendre des répétitions et que ce soit pas l'habitude, quoi. C'est toujours drôle aussi de voir comment un rôle peut être pris avec une sensibilité différente, tout en gardant les mêmes places et à peu près la même direction. Mais il y a des petites choses qui changent.
Et alors, moi, je vous ai vu dans tellement de répertoires différents, Stéphane Maripen. Vous avez un répertoire que vous affectionnez particulièrement. qui était votre idéal théâtral. Tout à l'heure, vous avez parlé de Tchekhov.
C'est vrai que Tchekhov...
En plus, vous avez vu dans Vania, par Julie Delicquet. C'est un merveilleux spectacle aussi.
Bah, c'est vrai que Tchekhov, j'aime énormément. Et puis Vania a été un tel souvenir. C'est un tel souvenir pour moi, c'est assez marquant de jouer ça. Et sinon, j'ai énormément joué Shakespeare, alors dans plein de styles différents, parce que c'était... J'aime beaucoup aussi ce rapport plus très tôt au théâtre.
Oui, qui essaye de reconstituer Ostermayer dans Le Roi Lear, quand on vous voit dans Le Fou. Et donc, c'est votre univers aussi.
J'aime bien aussi les personnages qui sont un petit peu dedans et dehors, comme Les Fous, justement, shakespeariens, ou comme là, dans Guermantes, où je suis à la fois personnage et narrateur. Donc, à la fois vraiment... dedans, dehors, quoi. J'aime bien cette double dimension.
Vous aimez bien le double, puisque de toute façon, vous êtes à la fois musicien
c'est
et
ça,
comédien.
Ouais.
D'ailleurs, on dit comédien ou on dit acteur? Qu'est-ce que vous préférez, vous, Stéphane Varupé?
Je sais pas. Comédien, peut-être.
En tout cas, donc je rappelle la parution de ce disque pour label Alpha Classics, la comédie française chante Gainsbourg. Juste un mot pour finir, vous avez parlé avec des proches de Gainsbourg, spectacle, justement pour avoir une vision plus intimiste.
Jane Birkin est venue, Charlotte aussi est venue, et Jane...
Vous en aviez parlé en amont avec elle ou pas?
Non, on n'en avait pas parlé en amont. On préférait aller de façon vierge, pour pas avoir d'a priori, puis pour... les retours qu'on a de musiciens qui l'ont connu, ou à la dernière, il y a eu Julien Clerc qui est venu, sont plutôt positifs et nous ont dit « Oui, je crois que vous avez capté quelque chose de juste de ce grand artiste. »
En tout cas, c'est un magnifique tableau souvenir que ce disque qui vient de paraître pour le label Alpha Classique. C'est pour tous les frustrés qui n'ont pas pu assister à ce spectacle et ceux qui, comme moi, l'ont déjà vu deux fois mais ne demandent qu'à revenir. On attend avec impatience une reprise.
Peut-être.
En tout cas, Stéphane Varupen, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité.
Merci à vous.